Bonsoir et bienvenue à la Tribune de la Presse, une émission hebdomadaire qui analyse quelques grands faits d'actualité ayant dominé la semaine en RDC. Trois faits ont été sélectionnés. L'Assemblée nationale a adopté une proposition du député national Matadi Nenga, demandant au gouvernement central d'annuler deux arrêtés du maire de la ville de Lubumbashi au Katanga sur les séjours des étrangers et des Congolais non résidents dans cette ville. L'un des deux arrêtés instituait en mai dernier une attestation de séjour qui devait être délivrée à tout Congolais arrivant nouvellement à Lubumbashi au Katanga. La FIDH, une ONG de défense des droits des hommes de Lubumbashi, proteste et qualifie ces arrêtés d'anticonstitutionnels. Dans notre deuxième thème, nous parlerons de l'assassinat dans la nuit de samedi à dimanche 6 juillet dernier à Kinshasa du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Daniel Botetsi, et de la suspension de la participation du MLC dans toutes les institutions issues des élections. Enfin, dans notre troisième thème, il sera question de la fin de l'examen d'État 2007-2008 qui s'est déroulé cette semaine dans tout le pays. Cet examen marque la fin des études secondaires et ouvre les portes de l'université aux élèves du secondaire. Comme invité pour en parler, Claudine Bombo, journaliste au sein du quotidien L'Observateur, paraissant à Kinshasa, Thierry Lebika, rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal Kin, émettant aussi à partir de Kinshasa, et André Romain Kambala Bilolo, journaliste de Kasaï Horizon Radio-Télévision, station de Chikapa au Kasaï Occidental. Il intervient à partir de Chikapa. Avant de nous lancer dans notre premier thème du jour, voyons d'abord comment certains journaux de Kinshasa ont traité l'actualité de cette semaine. C'est avec vous, Guy Maté.
Les journaux parus cette semaine se sont penchés sur le procès de l'assassinat du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Daniel Botetsi, et son inhumation mercredi dernier à Kinshasa, mais aussi sur la tenue de l'examen d'État à travers tout le pays. Cette actualité a occupé les manchettes des journaux le jeudi 10 juillet. Le mouvement de libération du Congo MLC en sigle a décidé depuis dimanche dernier de suspendre sa participation à toutes les institutions de la RDC rapporte la tempête des tropiques. Le quotidien du boulevard du 30 juin explique que cette grave décision est consécutive à l'assassinat dans la nuit du samedi à dimanche dernier du vice-président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Après un vibrant hommage de toutes les institutions, Daniel Botetsi a été conduit hier à sa dernière demeure, titre Le Palmarès, qui renchérit en affirmant que la mort de Daniel Botetsi a rassemblé les autorités politiques de notre pays en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Selon ce quotidien, toutes les institutions étaient présentes. Gouvernement central, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement provincial, Assemblée provinciale et autres anonymes. Botetsi inhumé hier, les schémas de la politisation échouent, titre l'avenir. Pendant ce temps, le procès de ces assassins est suspendu. Les avocats de la défense et les juges exigent entre autres le certificat de décès et l'expertise des légistes conclut l'avenir. Examen d'État 2008, les failles constatées. Certains participants n'ont eu leur macaron qu'au deuxième jour des épreuves, titre la tempête des tropiques, qui revient sur le déroulement des épreuves et qui constate que tout n'a pas été que rose. Et cela, poursuit ses quotidiens, à cause de la gloutonnerie de certains chefs d'établissement. Examen d'État toujours, cacophonie autour des frais de participation, a titré le quotidien La Tempête des Tropiques dans sa publication du 7 juillet. Et que constate, révèle ce journal, qu'entre les taux officiels fixés et annoncés par les pouvoirs publics et les frais exigés à l'école à cette fin, la marge est considérable. Et cela, dans la capitale comme dans les provinces, conclut La Tempête des Tropiques.
Merci Guy Maté. Nous passons directement à notre premier thème. L'Assemblée nationale a adopté lors de la séance plénière de ce jeudi une proposition demandant au gouvernement central d'annuler les deux arrêtés signés en mai dernier par le maire de la ville de Lubumbashi au Katanga sur la circulation des Congolais et des étrangers à Lubumbashi. Pour rappel, l'ONG de défense des droits de l'homme Action contre l'impunité pour les droits de l'homme, ACIDH, avait dénoncé mercredi dernier l'institution par le maire de cette ville d'un permis de séjour pour les Congolais en visite à Lubumbashi, jugeant cet arrêté inconstitutionnel La CIDH dénonçait aussi le silence du gouvernement central face à cet arrêté manifestement inconstitutionnel et illégal selon cette ONG. Quel est le sens de cet arrêté? Écoutons à cet effet M. Cyril Moulaja, conseiller du maire de la ville de Lubumbashi, qui lui-même est absent de cette ville.
En fait, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des gens qui arrivent à Lubumbashi. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Ils s'installent. Vous savez, l'idée qu'avait le feu président de la République, M. Laurent Désiré Kabila, en parlant de Tchimbéché, on vous avait dit qu'il y avait le système, comme disent en soi, le Nyumbatan. C'est que les gens devraient se surveiller mutuellement. C'est pour éviter qu'il y ait des intrus. Je ne comprends pas, moi, quand les gens s'acharnent autour d'identification des personnes. On n'a pas dit que personne ne vienne à Lubumbashi. On a dit réglementer les mouvements de la population. C'est regrettable, même des juristes. Des grands juristes qui vont plus loin pour dire qu'on a violé la Constitution. Mais la Constitution, dans son article 30, parle de quoi? Quand on dit l'article 30 a été violé, même l'article 13 de la Constitution a été violé. Mais ça n'a pas été violé. Donc, quand on identifie les gens, c'est la violation. On doit vivre dans une ville comme dans un marché. On y entre, on sort, sans pour autant savoir qui fait quoi, qui est appelé à faire quoi. Quelqu'un peut venir dans votre quartier, s'installe. Il peut même préparer son coup et le repas. Et vous avez le coup, même un mois après, deux mois après. Parce que vous n'avez pas su identifier la personne qui est arrivée.
Comment a réagi l'action contre l'impunité pour les droits de l'homme à CIDH, une ONG de défense de droits de l'homme, une ONG de défense de droits de l'homme basée à Lubumbashi face à cet arrêté du maire de la ville de Lubumbashi? Écoutons l'un de ses activistes, M. Prince Ekou Mwamba, au micro de notre confrère Paul Kabouba.
Il viole un nombre important de dispositions qui prévoient un certain nombre de principes. Et c'est notamment l'article 30 qui prévoit la liberté de mouvement, la liberté de résidence reconnue aux citoyens, non seulement des Congolais, mais aussi des étrangers qui vivent au Congo. C'est aussi les cas d'autres dispositions constitutionnelles qui prévoient, par exemple, la liberté de circuler partout où on est au Congo, de s'installer. Et M. le maire n'a pas tenu compte de tout cela. Un visa qu'il impose aux Congolais qui ne sont pas ou qui n'habitent pas la ville de Lubumbashi, et aussi aux étrangers qui, en étant déjà au Congo, sont supposés avoir un visa à l'entrée, et là, il leur impose une carte de séjour temporaire, et donc nous nous trouvons que là, ce sont des conditions qui sont anticonstitutionnelles et illégales. Monsieur le maire a outrepassé vraiment ses compétences, et il n'a pas très bien vu les choses en imposant aux Congolais de justifier des moyens de subsistance pour résider à Lubumbashi au-delà de moi. C'est pas normal.
Bonsoir Claudine Bombo.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au sein du quotidien L'Observatoire, paraissant à Kinshasa, un quotidien dont je rappelle proche de l'AMP. Comment vous réagissez d'abord face à cette institution d'un permis de séjour à Lubumbashi pour les Congolais ne vivant pas dans cette ville et qui pourrait être de passage dans cette ville?
Bon, il faut avouer que je ne connais pas tous les contenus de cet arrêté, mais en suivant nos deux intervenants tout à l'heure, on sent que chacun tire la couverture de son côté. Mais j'ai dit que ce système a existé en RDC pendant la Deuxième République. C'est pas mauvais de contrôler les entrées ou les flux migratoires, mais nous, notre souhait est qu'il n'y ait pas une idée cachée derrière cette action, parce que vous savez que la province de Katanga, principalement la ville de Lubumbashi, vous connaissez ce qui s'est passé dans cette ville, et il y a encore beaucoup de séquelles, et quand on amorce une telle action, vous voyez toutes les victimes, je ne voulais pas les citer, mais toutes les victimes Kassaïen, Katangais, vous connaissez les conflits qui s'est passé dans ce pays, toutes ces victimes, c'est comme si on va encore renouer les couteaux dans leur plaie. Mais si c'est vraiment pour se limiter au flux migratoire, l'idée, je pense, elle est encouragée.
Merci beaucoup, Claudine Bombo. Bonsoir, Thierry Lebika.
Bonsoir, Claude. Le plaisir est renouvelé de me retrouver encore une fois sur les ondes de la Radio Kabi.
Je vous en prie, vous êtes rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal Kin, mettant partie de Kinshasa, proche du MLC. Et vous partagez également le même point de vue que Claudine Bombo?
Non, absolument pas, parce que il n'est pas normal qu'un Congolais qui se déplace au-dedans de son pays puisse se signaler, dire où est-ce qu'il va, il a les moyens de vivre ou pas. quand ça commence par la ville de Lubumbashi, ça sera plus tard entre la commune de Ngiri-Ngiri et la commune de Bumbu. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour ceux qui nous suivent en dehors du pays, à l'état du pays, entre deux communes de la ville de Kinshasa, on pourrait me demander aussi la même chose. Mais tout simplement, ce que le maire de la ville a oublié, c'est que quand on prend son avion à partir de Kinshasa, par exemple, pour aller vers Lubumbashi, il y a le service de la DGM qui prennent votre nom à partir de l'aéroport et même au niveau de compagnie d'aviation. Ça veut dire que c'est un travail qui pouvait se faire en coulisses sans pour autant déranger certaines susceptibilités telles que celles que ma consoeur venait de citer tantôt là, faire penser qu'on est en train de chercher qui que ce soit. Et puis, dernière chose, avant de vous laisser la parole, la province du Katanga est une province assez spéciale. Après tout ce qu'elle a connu, il ne faut pas remuer le couteau sur la plaie pour ne pas penser à ce qui s'est passé. Et puis, il ne faut pas non plus laisser l'impression que le Katanga est spécial. Le Katanga a beaucoup de moyens, mais ces moyens-là, ça reste tout de même des moyens de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas l'oublier. Le Congo reste un, et j'espère qu'il restera indivisible aussi longtemps que possible.
Merci beaucoup Thierry Lébika. Bonsoir André Romain Kambala Bilolo.
Bonsoir Claude.
Vous êtes journaliste de Kassai Horizon Radio-Télévision, station de Chikapa au Kassai Occidental, et vous intervenez justement au téléphone à partir de cette ville. Je retiens de la part de Claudine Bombo et de... Malheureusement, nous venons de perdre notre confrère André Romain Kambala Bilolo. J'espère que nous allons le récupérer bientôt. Mais finalement, je reviens à vous, Claudine Bombo. Est-ce que, vu le boom économique, si on peut parler ainsi, notamment le boom sur le plan minier, est-ce que cela n'attire pas beaucoup de monde et qu'il faille réglementer un tout petit peu la circulation des personnes pour éviter qu'il y ait, par exemple, des personnes mal intentionnées qui commettent des gaffes et puis s'échappent vers d'autres provinces?
Oui, j'étais à Lubumbashi au mois de mai de cette année et ce que vous dites est vraiment réel. Quand vous arrivez dans la ville de Lubumbashi, il y a trop de monde et il y a trop d'entrées. Et ils n'entrent pas seulement par Kinshasa, ils entrent par Zambie, par Tanzanie, par Afrique du Sud et ils se retrouvent tous à Lubumbashi. C'est peut-être cette inquiétude-là qui a fait que le maire de la ville puisse prendre certaines mesures. Mais je le répète, moi, je me rappelle que même dans d'autres provinces, il y avait ces systèmes. On avait responsabilité les chefs de quartier pour que chaque arrivée soit signalée au niveau du quartier, pour qu'on sache qui vient, qu'est-ce qu'il va faire. Mais quand on ne connaît pas très bien les contenus, pour demander une carte de séjour, c'est vrai, on en donnait aussi aux autres et ils doivent nous dire pourquoi ils viennent dans la ville. Mais notre problème, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est une province qui a trop de susceptibilités et peut-être le travail pouvait se faire sans trop de tambours.
Mais est-ce que le contexte est encore le même que celui de la Deuxième République où c'était pratiquement un état policier où il fallait contrôler la population et ça nous rappelle un peu aussi le temps colonial où le colon voulait aussi contrôler la population. Est-ce que le contexte est aujourd'hui encore le même, d'autant plus que la Constitution, son article 30, si je ne me trompe pas, garantir la libre circulation de Congolais à travers tout le pays.
Mais la liberté, c'est pas de l'anarchie. Quand vous allez à Lubumbashi, vous l'avez dit tout à l'heure, à cause de carrières minières, il y a trop d'entrées et on peut profiter de ces entrées-là pour faire du mal. Qui sait si le conflit peut aujourd'hui partir de Katanga pour d'autres provinces?
Merci beaucoup Claudine. Thierry, est-ce qu'il y avait vraiment, d'après vous, urgence pour prendre de tels arrêtés, d'autant plus que l'Assemblée nationale, dans sa séance plénière d'hier, a voté une proposition du député national Matadi Menga pour annuler ces deux arrêtés. Et même hier, dans l'émission Dialogue entre Congolais, le conseiller Etchumba, du ministre de l'Intérieur, a dit au micro de Jean-Claude Toumba Kamanga que ces arrêtés avaient été suspendus par le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y avait vraiment une urgence qui prenne des tels arrêtés?
Non, je ne pense pas. Claudine parle.
Ou en quelque sorte, la ville de Lubumbashi était en danger pour que le maire de la ville s'autorise à prendre ces deux arrêtés.
Non, je ne pense pas. Quand on parle d'un boom économique, mais le boom économique qui peut y avoir au niveau du Katanga, le Katanga reste la République démocratique du Congo. Je ne vois pas de raison à interdire un type de Maniema de venir au Katanga à partir du moment où il reste encore en République démocratique du Congo. Il sera un danger à partir du moment où il sème du désordre ou bien il fait du mal. À partir du moment où un Congolais se retrouve en République démocratique du Congo et il fait aucun mal, il n'y a pas de raison à ce qu'on lui demande une carte de séjour. Je répète ce que je disais tantôt là. Il ne faut pas laisser l'impression aux Congolais qui sont dans le bas Congo que s'il y a du bien au Katanga, ça ne peut pas leur profiter. C'est un peu ça la peur que j'ai, qu'on leur passe l'idée par la tête que le bien qui peut se passer au Katanga ne peut pas profiter à ceux qui sont au Kasaï. Non, ce qui a combien au Katanga doit nécessairement profiter à ceux qui ne sont pas du Katanga à partir du moment où ils sont Congolais. L'idée qui est derrière tout ça, je pense que c'est celle de dire Katanga ou Katangé. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est vraiment pas une bonne idée hein, en soi. Et puis, Claudine a été au Katanga au mois de mai, moi j'étais au Katanga au mois d'avril. Dire qu'il y a un grand monde au Katanga, bon, je ne voudrais pas aller sur l'antenne, hein, c'est peut-être nos frères qui traversent à pied à pied en venant du Kasaï, les Kinois dans nos familles ici à Kinshasa. Combien de nos amis rêvent d'aller au Katanga? Je ne pense pas que le boom économique dont parle Claudine actuellement au Katanga.
Déjà, le billet, le montant du billet, il est prohibitif hein, pour la plupart des Kinois. Hein.
Oui, de $300.
$60. Non, déjà dans la tête, je vois mal un Kinois me dire que ça va bien au Katanga.
Mais il y a beaucoup de Kinois sont aussi attirés par les mines. Si, il y a quand même beaucoup de problèmes pour avoir.
J'étais au Katanga il y a 3 mois, je n'ai pas vu autant de Kinois. Peut-être à l'Inulu. Moi, je pense que ceux qui viennent le plus au Katanga, ce n'est pas les Kinois. C'est plutôt ceux qu'on ne voudrait pas citer. Hein. Je ne voudrais pas les citer. Ceux d'autres parts que de Kinshasa, que du Maniema, que de Goma, que de Mbandaka.
Mais c'est normal qu'il y ait circulation de la population à travers le pays.
Très normal même.
Voilà, on me signale qu'on vient de récupérer notre confrère André-Romain Kambala Bilolo. Vous êtes journaliste au Kasaï Horizon Radio-Télévision, station de Tchikapa au Kasaï Occidental, et vous intervenez à partir de Tchikapa. Je vais vous rappeler un peu ce que viennent de dire nos collègues Claudine et Thierry. Ils pensent que c'est une, pour Claudine, ça pourrait être une bonne mesure, mais attention que cela ne suscite pas d'autres idées, d'autant plus que le Katanga a connu beaucoup de problèmes avec l'expulsion notamment de Kasaïens que tout le monde a dénoncé. Pour Thierry Lebika, c'est une situation tout à fait anormale parce que les Congolais ont le droit de circuler dans tout le pays et cela pourrait conduire à des demandes de papiers d'une commune à une autre au sein d'une même ville. Et il ne faudrait pas remuer, d'après lui, le couteau dans la plaie en raison de ce qui s'était passé il y a quelques années au Katanga. Comment on perçoit ces arrêtés au niveau de Tchikapa au Kasaï Occidental, où il y a quand même des liens avec le Katanga et Lubumbashi particulièrement?
Ah, merci Claude. Nous rejoignons l'idée de Thierry, nous rejoignons aussi Claudine dans sa façon de raisonner, pour dire que la décision du maire, en quelque sorte, il est allé au-delà. On s'imagine peut-être que le Katanga risque d'être un État dans un État. En prenant des positions comme ça, c'est un État dans un État. Je pense qu'on sait dans ce pays qu'il y a des services qui régissent l'entrée et la sortie des Congolais, leur circulation sur l'étendue nationale, pour citer la Direction Générale de l'Immigration, qui est implantée dans n'importe quelle province de ce pays. Mais si aujourd'hui, avec le maire, il faut passer par un quelconque document, une sorte de visa pour identification, séjour de ceci et de cela, et quelle sera la place du service de DGM au Katanga? Comme l'a dit Thierry au début, au départ de Kinshasa par exemple, prenez Kinshasa, c'est aussi au départ de n'importe quelle province, quand vous prenez votre avion pour le Katanga, automatiquement le service de migration vous identifie.
Il s'agit de la ville de Lubumbashi, hein. Il s'agit de la ville de Lubumbashi, pas de tout le Katanga.
Ok, merci. Quand vous arrivez à Luano, au Katanga même, précisément dans la ville de Lubumbashi, vous êtes identifié par ce service. Ici, c'est comme on l'a dit, à moins qu'il y ait deux idées cachées derrière la tête et qu'on ne veut pas révéler à première vue. Et aussi, de quelque part, il ne faut pas qu'on remue le couteau dans la plaie qui est encore trop fraîche, parce qu'on n'a pas oublié. Les Congolais, dans la plupart des cas, font semblant d'oublier, mais le passé, on ne le modifie pas. On connaît ce qui est arrivé au Katanga face aux Katayens qui sont partis à masse. Et aujourd'hui, s'il y a encore cette idée d'instaurer une sorte, je ne sais pas, de visa, de quoi, pour séjour au Katanga, c'est une façon de revenir sur cette idée ancienne. Alors, pour clôturer ici, je peux dire seulement, Claude, que jamais nous n'irons, les gens de Tikapa, tout comme la population qui écoute ces décisions du maire de la ville de Lubumbashi, n'accepte pas ça. Alors, qu'est-il faut aujourd'hui limiter pour Katanga? C'est-à-dire qu'il faut que chaque province en fasse autant, ou chaque ville en fasse autant. Alors là, vous voyez à quoi nous tendons, Claude.
Mais vous êtes à Tikapa au Kasaï occidental, que vous voyez beaucoup de Kasaïens de Tikapa aller vers, se ruer vers Lubumbashi.
Oui, effectivement, il y a de gens de Tikapa qui vont vers Lubumbashi.
Pourquoi faire?
C'est vrai qu'il n'y a pas un vol direct entre Tikapa et Lubumbashi, mais en transitant par Katanga, on y va soit par train, on y va soit par avion. Il y en a qui prennent le vol ici pour atterrir à Kinshasa, et de Kinshasa, ils prennent leur avion pour Lubumbashi. C'est pour vous dire que...
Ils sont nombreux.
Oui, c'est une masse considérable de gens qui font le trafic parce que le poisson que nous consommons sur Tikapa vient de Lubumbashi.
Merci beaucoup. Mais comment expliquez-vous le silence du gouvernement provincial et puis la réaction assez tardive de l'Assemblée nationale et même du gouvernement? Parce que j'ai sous mes yeux cet arrêté qui a été signé par le maire de cette ville le 21 mai 2008, donc il y a plus d'un mois, mais on n'a pas senti une certaine... acte du gouvernement pour pouvoir réagir, et même de l'Assemblée nationale, ils interviennent plus d'un mois après. Et même le gouvernement provincial de Lubumbashi et du Katanga n'a pas réagi.
Ok, merci Claude. Ici, par rapport au gouvernement provincial du Katanga, là on ne voudrait pas plus se focaliser. On ne sait pas s'ils sont de mèche avec ceux qui édictent les lois. Là, c'est de leur côté. Mais revenons un peu au gouvernement central.
Rapidement.
Alors, c'est vrai que oui, le gouvernement central devait d'abord s'imprégner de ce qui s'est passé de l'autre côté pour faire sortir sa décision. J'essaie dernièrement, la fois dernière, le gouvernement central a dû réagir par rapport à la position de Kungwa Kumwanza, avec qui j'ai certain de le connaître comme acte là-bas. Le gouvernement a réagi, je crois, je ne sais pas si on l'avait interpellé, mais la réaction du gouvernement central s'est fait sentir. C'est vrai que nous décrions que, tardivement, le gouvernement semble réagir, mais c'est sa position peut-être qu'il était en train d'étudier en profondeur, qu'est-ce qui s'était passé à Lubumbashi, peut-être qu'on avait invité le maire, on ne le sait pas, qu'on l'avait entendu, qu'on l'avait téléphoné.
Merci beaucoup, donc on va passer à la deuxième partie, mais avant cela, en 30 secondes Thierry, les Bikao, je vous rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Canal Kin, une chaîne de télévision émettant à partir de Kinshasa, et comme je le disais, proche du MST, est-ce peut-être un prélude à des problèmes que pourrait connaître le pays une fois la décentralisation concrétisée dans tous les pays, surtout que trois lois sur la décentralisation ont été adoptées hier jeudi à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut craindre des problèmes qui surviendront après la décentralisation?
La décentralisation, c'est une bonne chose. Tous nous l'avons entendu. Hier, nous avons été contents de suivre ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais il y a une chose, il faut un gouvernement central fort. Notre confrère de Tikapa disait tantôt que le gouvernement va faire ceci. Moi, je ne pense pas que le gouvernement central pourra faire quelque chose parce qu'il n'a pas encore fait quelque chose jusque-là. On a vu des cas d'un ministre, membre du gouvernement, qui a été séquestré par quelqu'un dont je ne cite pas le nom au niveau de Lubumbashi. Le gouvernement central n'a jamais réagi.
Merci beaucoup Thierry. Rapidement, en 30 secondes, Claudie, vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, je voulais juste dire à Thierry qu'aujourd'hui, la ville de Lubumbashi est devenue une ville de transit pour beaucoup des Kinois et des autres provinces pour arriver en Afrique du Sud. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à Lubumbashi. Et si on peut réglementer leur arrivée ou leur entrée à Lubumbashi, sans arrière-pensée, sans idée noire derrière cette action-là.
Non, je vous dis une chose. On dit que les déplacements au niveau du Congo du groupe démocratique sont réglementés, hein. On est d'accord, non? La DGM, la NERF font leur travail depuis des années.
Mais comment ça se passe à l'aéroport, Thierry? Tu voyages beaucoup?
La question, c'est de savoir qui va où et qu'est-ce qu'il va faire. On le dit toujours à l'aéroport, non?
Mais qu'est-ce qu'il y a du mal à répéter les mêmes phrases devant la mairie?
C'est là qu'on a peur qu'il y ait des idées derrière la tête. Quand la mère le fait, tout le monde est d'accord.
Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Donc, nous sommes obligés, il y a beaucoup à dire, mais nous sommes obligés de passer à la seconde, à notre second thème. Le bureau du MST s'est réuni ce matin pour évaluer les mesures prises par le gouvernement congolais après l'assassinat le dimanche 6 juillet dernier du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. Daniel Botessi. Il a été abattu dimanche dernier à Kinshasa par des hommes armés alors qu'il revenait d'une fête. Après cet assassinat, le MLC, son parti et certains de ses alliés, comme l'Ordre des démocrates indépendants, ODR, ont suspendu leur participation dans toutes les institutions issues des élections. Suivant à cet effet les propos du député national Thomas Luaka, qui est aussi secrétaire exécutif du MLC, il est au micro de notre conseiller Babel Pongo.
Nous ne serons pas présents. Parce que, comme vous le savez, nous avons décidé de suspendre notre participation parce que la situation sécuritaire n'est pas très bonne à la suite de l'assassinat odieux de notre camarade. Maintenant, on nous dit que le gouvernement a fait quelque chose pour améliorer cette sécurité. Nous allons voir ensemble et évaluer par rapport à ce que nous avons demandé, ce qui a été fait pour pouvoir lever maintenant une option. Il y aura une réunion d'évaluation aujourd'hui du NSC et des alliés qui nous ont suivis.
Voilà, donc je reviens à vous. D'abord, on va aller à Chikapa, d'où intervient au téléphone André Romain Kambala Bilodo. André, comment vous, on a réagi à Chikapa face à l'assassinat du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa?
Oui, à Chikapa, tout le monde était au regret de voir que les trucs de ce genre se passent dans la capitale où toutes les institutions sont présentes et installées. Comment voulez-vous? Il n'y a pas longtemps que nous avons regretté des balles qui ont été tirées sur le ministre Onusumba. La mémoire est encore fraîche. Et peut-être que ça doit être dans le
c'est
même parage.
C'est un député, hein. C'est un député Onusumba.
Ah, député Onusumba, dans le même parage. Et aujourd'hui, on est à Daniel Botete, pour qui nous présentons nos condoléances à sa famille politique, mais pourquoi pas à sa famille biologique. Chikapa regrette. Et là où toutes les institutions, toute la sécurité de ce pays se retrouve à Kinshasa, que des actes comme ça se commettent. Donc, c'est le regret. Et en plus de ça, on se demande si réellement il y aura un procès équitable dans cette histoire, dans cette affaire, dans cet assassinat de Botete, parce qu'il y a deux cas. On a tiré son vrai sur Onusumba, mais nous n'avons jamais eu l'évolution du dossier par rapport à cela. Plus grave, dans le rapport qui arrive quand l'audience a été tenue lundi et mardi dernier, on dit ceux qui ont tiré et qui ont été appréhendés en voulant bien remonter leur histoire sont des anciens malfrats. Alors, je me demande, des anciens malfrats qui rôdent encore dans le rue de la capitale, là où toutes les sécurités sont réunies et ne sont pas en prison. On se demande pourquoi. Je vais paraphraser ce que nous avons lu dans les différents documents. On a trouvé sur l'un d'eux la montre de Chabani Londa qui autrefois avait subi des tracasseries de ces gens, on lui avait ravi, je ne sais pas si c'est de l'argent, si c'est quoi. Alors, pour revenir à votre question, la population de Chikapa, la population de MLC et d'autres partis politiques, voire la population libre, a regretté les histoires qui se passent à Kinshasa, où tout s'y trouve, le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat et le tout, et on déplore des actes comme ça.
Merci beaucoup, Romain André Kambala. Thierry Lebeka, vous êtes rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal Kin, émettant partout de Kinshasa, proche du MLC. Comment on a réagi dans votre chaîne ou du côté des partisans même du MLC face à cet assassinat?
Bon, d'entre deux, je salue d'abord la mémoire de cette vie qui a disparu, que j'ai connue personnellement, que j'ai vue trois jours avant son assassinat. La réaction, c'est une réaction de grande tristesse, mais également de peur. Pourquoi? Parce que je suis sous les ombres de la radio Okapi. Moi, j'ai la chance que Okapi me donne l'occasion de parler. Bon, je le fais en tant que journaliste. Daniel, qui est décédé, qui a été assassiné ce jour-là, n'avait pas l'habitude de parler. Moi, je dis, si des militaires en armes, on ne sait pas le contrôler, je peux dire quelque chose sur les ondes de la radio Okapi, quelqu'un me le fait payer. C'est un sentiment d'insécurité générale et de peur. Hein, il n'est pas normal qu'un quartier comme ma campagne devienne un endroit où tout le monde a peur. Moi, j'ai grandi pas très loin de ma campagne. Je passais par Palais de Marbre, je faisais du vélo dans ce quartier, j'allais dans un club, le club Nyangarachil Opus Dei, non loin de l'endroit où Daniel a été assassiné. J'ai peur pour mon pays, pour ma ville de Kinshasa, une ville où on a passé des moments difficiles, 90, mon bout qui allait partir, tout ça, mais on n'a pas connu de telles choses. Ça veut dire qu'il y a lieu que ceux qui ont de partie d'autorité puissent travailler à ce que Kinshasa ne soit plus une ville où les gens peurent. Déjà, nous ne sommes bantous en général, nous qui sommes ici à Kinshasa, nous n'aimons pas le sang, nous ne faisons pas assez, nous nous demandons d'où ça vient, ces pratiques de tuerie et tout ça, ça fait vraiment peur.
Merci beaucoup, sentiment de peur. Est-ce que c'est le même sentiment que vous partagez aussi à Claudine Mbombo, et comment réagissez-vous aussi face aux propos d'André Romain Kambala qui dit que c'est quand même assez dommage que cela se passe à Kinshasa, au siège des institutions. Il s'interroge même sur les, disons, la justesse du procès contre les présumés coupables, d'autant plus que ceux qui avaient attenté à la vie du député national Onosumba, qui se trouve encore en soins en Afrique du Sud, n'ont toujours pas été jugés, semble-t-il, à moins que je ne me trompe.
Merci Claude, j'ai raison d'abord ma voix aux voix de confrères de tout à l'heure pour souhaiter mes condoléances à la famille, mais je pense que là nous devons revenir sur les problèmes du traitement de nos militaires, de nos hommes armés. Il y a une seule solution pour maîtriser l'insécurité dans cette ville, dans ces pays, c'est améliorer les conditions de vie et de travail de nos hommes en uniforme. Parce que quand vous suivez leur procès, ils vous disent que c'est notre seule manière de vivre. C'est-à-dire quelque part, ça ne va pas. On sait qu'il y a des tournements des ordres des militaires dans ce pays. On l'a dénoncé à maintes reprises. Mais quelles sont les autorités? On attend toujours qu'il y ait des assassinats pour qu'on vienne dénoncer, pour qu'on vienne donner des nouvelles promesses. J'aime bien même les combats du MLC devraient aujourd'hui être basés sur les votes d'un budget conséquent pour l'armée et pour la police de la RDC.
Jean-Pierre Bemba a réagi par la voix du secrétaire général François Mwamba. Il met sous la responsabilité du gouvernement congolais cet assassinat. Il dit pour sa part que Daniel Boteki, malgré son jeune âge, était voué à un avenir radieux sous le plan politique. Comment réagissez-vous par rapport à ces déclarations de Jean-Pierre Bemba du fond de sa cellule?
Oui, j'ai suivi son message. C'était vraiment un message poignant, un message qui donnait des larmes. Et je pense que Jean-Pierre avait raison. Nous disons toujours l'avenir de ces pays réside dans la jeunesse. Quand on est en train déjà d'éliminer des jeunes qui peuvent prendre la relève de ces pays, où allons-nous? Le problème est très simple. Je dis, oh, je reviens sur ces problèmes-là. C'est pas impossible de maîtriser l'insécurité dans ces pays. Et même si quand on demande des casernements de soldats, même si vous les mettez à 150 mètres du centre-ville, à Mbakana par exemple, ils vont rentrer au centre-ville parce qu'ils ne paient pas les transports. Et ils vont commettre les mêmes dégâts. Je pense qu'il faut vraiment attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire améliorer les salaires de nos hommes en uniforme, améliorer les salaires de nos policiers. Et vous avez vu quand on a essayé un peu d'améliorer le salaire des policiers, ils se débrouillent tant bien que mal. Mais aujourd'hui, les policiers, il paraît, je ne sais pas verser l'information, tous mieux que les soldats. Et ces soldats-là, pour vivre, quand il a 17 000 francs par mois, tu veux qu'il puisse terminer le mois comment?
Mais Claudine Mbombo, vous êtes justement journaliste au sein du quotidien L'Observateur qui est proche de l'ANP. Mais est-ce que cela justifie les raisons avancées par Jean-Pierre Bemba, qui disait qu'il ne pouvait pas revenir ici suite à sa sécurité qui n'était pas garantie avec cet assassinat? Est-ce que ça justifie au moins le départ et les hésitations de Jean-Pierre Bemba à revenir ici au Congo quand il n'était pas encore arrêté?
Non, moi je pense que c'est une autre paire de manches. Et moi je me dis toujours, si Jean-Pierre Bemba était revenu dans ces pays, il ne serait pas là ces pays en ce moment.
Nous allons peut-être terminer avec vous, André-Romain Kambala, vous intervenez à partir de Tshikapa. Mais finalement, comment vous jugez la décision du MLC de suspendre sa participation dans les institutions issues des élections jusqu'à ce que le gouvernement examine, réponde à ses requêtes concernant la sécurisation d'une partie de la ville de Kinshasa, notamment la démilitarisation du quartier Matampagne ici à Abuja, alors que dans l'entretemps, l'Assemblée nationale, le Parlement continue à travailler puisqu'il a voté trois lois sur la décentralisation.
Oui, sur ce point-là, je me dis que le monsieur a raison. D'abord, au vu de ce que le monsieur a connu dans ce pays.
Qui a raison? Quel monsieur?
Oui.
Quel monsieur a raison?
Non, j'ai dit le MLC a raison de prendre cette position. Ok,
ah.
Claude?
Ah oui, je vous
Au vu de tout ce que ce parti politique a connu dans ce pays, moi je ne suis pas des partis politiques, c'est vrai, mais au vu de tout ce que le MLC a connu dans ce pays, il a raison de prendre cette position. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se frotter les mains, dire bon, ce qui est arrivé, c'est parce que on a abattu Daniel. Mais demain, on sait à qui le prochain tour. Et aussi, à qui profite ces crimes? Ce sont des grandes questions qu'il faut peut-être se poser. La conscience a soulevé bien le problème de traitement des soldats, de traitement de policiers, ainsi de suite. Mais moi, je me dis aussi, sur l'angle purement politique, et qu'il n'y a pas de règlement des comptes, c'est une question qu'on se pose, et qu'il n'y a pas de règlement des comptes. Alors, parce que nous ne pouvons pas pour le moment dire, voilà, c'est sur telle piste, voilà ce qui est arrivé, c'est parce que, je me dis personnellement, que la position du MLC en tant qu'opposition est réelle, il faut qu'on protège le député, il faut qu'on protège le ministre, que le gouvernement soit capable de prendre ses responsabilités.
Merci beaucoup, c'est par vous Thierry, les BICA, que nous allons terminer ce deuxième thème, règlement de compte ou crime crapuleux. Finalement, pour résoudre ce problème d'insécurité à Kinshasa, est-ce que la solution c'est de bien payer les militaires?
La solution passe par là, bien payer les militaires, mais aussi la discipline. La discipline, ce n'est pas seulement les hommes qui ont les armes, mais c'est aussi ceux qui le commandent. Moi, je pense que notre pays ne fonctionne pas encore normalement, parce que moins de deux semaines avant ce qui est arrivé à Daniel Botetti en France, vous l'avez suivi, il y a un militaire en plein entraînement à Carcassonne qui a tiré à balles réelles et qui a tout simplement été blessé. Vous savez ce qui est arrivé après? Le chef d'état-major général a démissionné. C'est un monsieur qui pouvait entrer en pension d'ici 3-4 mois. Mais consciemment, il s'est dit, j'étais. C'est pas lui qui a mis la balle dans l'arme de ces militaires qui a
tiré.
Je veux dire que dans la chaîne de commandement, il faut qu'on sache si le militaire dépendait de qui ce jour-là. Est-ce qu'il a contrôlé son homme, était où son arme, il avait combien d'armes, il avait combien de balles, pourquoi est-ce que. Parce que moi, on m'a appris, j'avais fait l'armée, on m'a appris que les militaires, matin, midi, soir, ils doivent rentrer chez leur chef, présenter les types d'armes qu'ils ont et le nombre de balles qu'ils ont.
Qu'est-ce que là, c'est fait encore?
C'est fait quelque part, mais à d'autres endroits, ça se fait pas. Un tel chef, les commandants de ces messieurs, on devait les connaître sans parti pris, hein. On devait les connaître, savoir s'il a réellement fait son travail.
Merci. Crime crapuleux ou c'est simplement c'est un règlement de compte ou un assassinat
politique? Le jugement va nous le montrer, mais je parie peut-être par un fait de hasard. Les garçons, notre foi s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment.
Merci beaucoup Thierry. Donc nous passons à notre dernier thème. C'est la fin de l'examen d'État 2007-2008 qui s'est déroulé sous toute l'étendue de la RDC, même dans les coins où règne encore l'insécurité à l'est du pays notamment. Écoutons d'ailleurs à cet effet le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Makaire Mwangu, qui était ce matin l'invité de l'émission Okapi Action sur Radio Okapi. Il était l'invité de Nicole Ngaka et J.R. Lungembo. Écoutons-le faire le bilan de cet examen et nous reviendrons ensuite dans ce studio.
Hormis quelques petits problèmes liés à la nature humaine, en tout cas, les opérations sont très bien déroulées à travers le pays.
Est-ce que vous êtes satisfait concernant le taux de participation cette année?
Ah oui, je suis vraiment satisfait.
Par rapport à l'année passée, c'est plus élevé?
Oui, c'est plus élevé. Nous avons une augmentation de 24%, 24,16%, je crois. Dans l'année passée, nous avions 303 candidats. Cette fois, nous avons 376 917 candidats. Ça, c'est quand même un nombre assez important. Et même au niveau de la jeune fille, il y a un accroissement. Ce qui est aussi particulier, c'est que je vis ici à Kinshasa, où certains élèves avaient même plus de 40 ans, donc, et ils se sont présentés en tant que candidat, en tant qu'élève régulier.
Rendons-nous à Tshikapa. André-Romain Kambala, comment l'examen d'État s'est passé chez vous à Tshikapa?
Oui, je dis, l'examen d'État s'est passé dans les bonnes conditions et dans les calmes. Il n'y a pas eu d'incident majeur à pouvoir signaler, d'autant plus que tout le responsable à tous les niveaux s'était mis au travail.
Et vous avez suivi le ministre de l'EPSP, il qualifie ce bilan de positif, augmentation de plus de 24% du nombre de participants, plus de 370 000 candidats cette année, et puis il y a eu aussi augmentation de la participation de la jeune fille, il y a eu même ici à Kinshasa des élèves de plus de 40 ans qui se sont présentés comme élèves réguliers. Vous pensez que le bilan est positif?
Bon, je ne sais pas, positif en termes de participation, mais en termes de qualité de travail, je ne crois pas personnellement, parce que Tikapa, où je me trouve pour le moment, a connu un mois presque dans les écoles publiques où les enfants n'allaient pas à l'école, un mois de grève, et ce mois de grève, à entendre les ordres qui sont venus des autorités, comme le ministre qui a livré ce bilan, n'a pas connu de récupération. Ce qui me dit que ceux qui sont allés, ceux qui étaient élèves dans les écoles publiques, ils sont d'accord. D'abord, les plus abondantes ou les plus nombreuses, ceux qui sont allés aux examens d'État qui étaient des écoles publiques, ils sont partis avec un déficit. Parce que car deux mois dans l'enseignement, c'est très suffisant. Alors, du point de vue qualité du travail abattu, je me dis pas tellement positif. Mais du point de vue participation, acceptons ce qu'il a donné, c'est positif.
Merci beaucoup Thierry. Lebeka, le ministre qualifie de positif la tenue de l'examen d'État à travers le pays, mais nous savons qu'à l'est du pays, il y a eu aussi beaucoup de problèmes, comme à Tshikapa, où certains étudiants, certains élèves à l'est du pays ont déploré le fait qu'ils ne se sont pas bien préparés dans la maison où il y avait notamment des affrontements dans les Kivu entre le Parico et les FARDC. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces élèves-là? Il fallait peut-être reporter l'examen d'État pour eux, pour leur permettre de mieux se préparer, ou qu'est-ce qu'il fallait faire finalement?
Oh, difficile à répondre. Hein. Le ministre, en tant que numéro 1 de l'enseignement, a jugé la participation comme étant un des critères clés pour juger l'examen d'État d'être positif ou négatif, mais je pense pas que ce soit l'unique critère. Hein. Critère dont parle notre frère de Tshikapa est essentiel. Tout le monde le sait que cette année n'a pas commencé très vite. On a connu un début extrêmement difficile avec un mois de grève. Déjà, les syndicats au niveau de catholiques parlaient même de Rallonge. On a appris que la B coordination nationale, au niveau national, au niveau de la conférence épiscopale, parlait même d'une proposition de Rallonge. Le ministre a dit qu'il ne fallait pas le faire. Aujourd'hui,
de Rallonge de l'année scolaire.
Aujourd'hui, c'est affiné d'un mot d'État, mais je pense, moi, qu'il fallait un peu écouter ce que proposait la commission épiscopale chargée de l'enseignement, parce que l'année scolaire a des critères. On parle de 400 à 500 jours, j'oublie un peu 600 jours par là. Quand on respecte pas tout cela, l'enfant n'arrive pas à bien assimiler la matière.
Bon. 600 jours, c'est plus d'une année. Hein,
non, c'est pas 600 jours, 300 et quelques pour que l'année soit viable. Je sais qu'on a fait beaucoup de colmatage de brèches pour que l'année puisse se terminer. Bon, Dieu merci que l'année soit terminée, mais...
Vous êtes pessimiste quant au résultat?
Non, le résultat, c'est un autre problème, la qualité des élèves que nous allons produire. Voyons les résultats, hein, mais je ne suis pas très rassuré par rapport à la qualité.
Claudine Bombo?
Oui, en tout cas, j'ai rejoint le confrère pour dire résultat, bilan en termes de participation. Oui, il y a eu évolution, mais il faut quand même donner un coup de chapeau au ministre pour cette organisation. Comme Thierry l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de réticences, on voulait prolonger, mais nous savons quand on prolonge l'année scolaire, vous connaissez les conséquences, et il y a eu même des provinces où les gouverneurs s'est permis de payer le frais de participation aux élèves, et les gens ont acclamé. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut plutôt permettre à ses parents de prendre en charge leurs enfants. C'est pas poser des actions ponctuelles pour aider ces enfants-là à faire les examens.
Donc améliorer les conditions sociales des parents.
Voilà. Et aussi des enseignants.
Merci
parce qu'on a besoin d'une éducation de qualité, d'un système éducatif de qualité. Et ça doit commencer à la base, c'est pas au niveau de l'examen d'État.
Honneur aux dames, c'est avec vous que nous terminons cette émission Tribune de la Presse. Merci donc à vous, Claudine Bombo, à Thierry Lévica et à André Romain Kambala, qui intervenaient depuis Chikapa, au 14 Occidental. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Claude Toumba-Kamanga a réalisé cette Tribune de la Presse, qui était mise en onde par Jean-Claude Ntiala. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Roger Nyampala, Céline Kouté, Sikim Koutou et Guy Maté. Au revoir et bon week-end à tous nos auditeurs de Radio Kapi.
Okapi, okapi.